Le journal, Benoît Bouscarel.
Bonsoir à toutes et à tous. L'Italie envisage de réduire sa contribution financière à l'Union européenne. Confirmation sur Facebook ce soir de Luigi Di Maio, vice-premier ministre. Un peu plus tôt à Bruxelles, la Commission européenne avait refusé de transiger avec l'Italie sur la question des 150 migrants du Diciotti, toujours bloqués à quai dans le port de Catane en Sicile. En Espagne, un projet qui divise la population. Il s'agit d'exhumer la tombe de l'ex-dictateur Franco. Le feu vert vient d'être donné par le gouvernement dirigé par Pedro Sanchez. Correspondance de Pierre Chaperon. Et puis dans ce journal, nous irons sur l'île de Lombok, en Indonésie, où un Airbus de l'armée française participe aux opérations de secours des victimes des tremblements de terre de la semaine dernière. Les menaces ne mènent nulle part. Déclaration ce soir de la Commission européenne. C'est une réponse à l'Italie et à son gouvernement populiste qui refuse toujours d'accueillir les migrants secourus la semaine dernière par un navire des gardes-côtes italiens. Ce dernier, le Diciotti, est toujours à quai. L'Italie refusant d'accueillir les migrants tant qu'une solution européenne n'est pas trouvée. Mais le dialogue de sources complique ce soir. Désormais, le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio confirme son intention de réduire la contribution financière à l'Union européenne qui, elle, n'entend pas céder donc aux menaces. Elle l'a réaffirmé à l'issue d'une réunion de hauts fonctionnaires dans le courant de l'après-midi à Bruxelles. Johanna Hochstein.
Officiellement, la réunion convoquée à Bruxelles ne devait pas permettre de résoudre le sort des migrants bloqués sur le navire Diciotti. Pourtant, dans une déclaration rédigée en amont de la rencontre, que les ambassadeurs n'avaient qu'à valider, il était question, je cite, « d'avancer vers une solution partagée pour les migrants du Diciotti ». Comprenez une répartition entre différents pays européens des personnes encore à bord du navire italien. Mais des avancées, il n'y en a finalement pas eu. La bonne volonté des Européens a des limites, justifie-t-on en coulisses. Les partenaires de l'Italie ne veulent plus être mis devant le fait accompli. Ils n'apprécient guère les menaces et les ultimatums venus de Rome. Ils ne veulent plus devoir gérer dans l'urgence, au cas par cas, le sort de migrants bloqués dans des ports italiens. Il faut avancer sur un mécanisme plus global, explique-t-on à la Commission européenne. Avancer sur ce concept de centre contrôlé de débarquement des migrants, des centres temporaires qui seraient situés sur le sol européen, pas forcément en Italie, et qui permettrait de faire le tri entre les candidats à l'asile et les migrants irréguliers qui devraient être renvoyés chez eux. Mais la réunion à Bruxelles n'a pas permis de dégager de consensus sur ce sujet non plus.
Johanna Hochstein. En Espagne, et toujours sur la question migratoire, le gouvernement de Pedro Sanchez est vivement critiqué pour avoir renvoyé 116 migrants vers le Maroc. C'était hier, soit dès le lendemain de leur arrivée en force dans l'enclave espagnole de Ceuta. Les critiques fusent en provenance notamment du parti Podemos et des ONG de défense des droits des migrants. Toujours en Espagne, le gouvernement a donné son feu vert ce vendredi au processus d'exhumation du dictateur Franco qui a dirigé le pays de 1939 jusqu'à sa mort en 1975. Enterré depuis au sein d'un mausolée à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Madrid, l'ancien caudillo est resté un symbole gênant. Le déplacer était une promesse de Pedro Sanchez à son arrivée au pouvoir en juin dernier. Le socialiste veut faire du mausolée, qui accueille également les dépouilles de nombreux soldats républicains, un lieu de rassemblement des Espagnols. À Madrid, la correspondance de Pierre Chaperon.
De la conviction et une volonté forte. C'est dans cette position que la vice-présidente du gouvernement espagnol, Carmen Calvo, a présenté le décret d'exhumation de la tombe de Franco.
Nous ne pouvons pas continuer plus longtemps dans la démocratie espagnole sans avoir mis de l'ordre dans nos souvenirs, tout en respectant ceux des victimes. Aucun pays n'a supporté une situation comme la nôtre pendant plus de 40 ans.
Objectif pour le gouvernement, transformer le lieu où repose le dictateur depuis bientôt 43 ans en un endroit de réconciliation. Oui, mais voilà, le projet divise. Il divise dans la société espagnole entre les nostalgiques de l'époque et les victimes en quête de reconnaissance. Une absence de consensus que l'on retrouve également dans les partis politiques. Si le gouvernement devrait recevoir notamment l'appui du parti d'extrême gauche Podemos, elle ne comptera pas sur celui des centristes de Ciudadanos, ni du parti de droite, le Partido Popular. Quoi qu'il en soit, le processus est enclenché. La famille de Franco a 15 jours à partir du 31 août pour indiquer un nouveau lieu pour la sépulture, sans quoi ce sera l'exécutif espagnol qui le fera. Le décret lui sera voté dans un délai d'un mois. L'exhumation aura lieu avant la fin de l'année.
Explication de Pierre Chaperon. En Allemagne, la presse et la classe politique se questionnent depuis une semaine sur l'influence que pourrait exercer l'extrême droite au sein de la police à Dresde. En Saxe, la région a enregistré des pics de vote pour le parti d'extrême droite AFD lors des dernières législatives en septembre. Et récemment, un policier a été identifié alors qu'il manifestait dans les rangs des militants du parti anti-islam Pegida. À Berlin, Nathalie Versieux.
L'affaire ne cesse de faire des vagues, obligeant Angela Merkel et sa ministre de la Justice à monter à leur tour au créneau pour réaffirmer leur attachement à la liberté de la presse. Les faits remontent à une semaine. Angela Merkel se rend alors à Dresde, accueillie comme lors de chacun de ses déplacements en ex-RDA par des sifflets et une manifestation du mouvement anti-islam Pegida. Les choses dérapent lorsqu'un manifestant prend violemment à partie une équipe de la chaîne de télévision publique ZDF présente sur place. La police arrive à la rescousse, prend parti pour le manifestant, lequel s'avère être lui aussi de la police criminelle. Le fonctionnaire manifestait à titre privé. Le malaise persiste en Allemagne et l'opposition dénonce un possible noyautage de la police saxonne par l'extrême droite, d'autant que le ministre régional de l'Intérieur a lui clairement pris la défense de ses fonctionnaires face à la chaîne ZDF.
Nathalie Versieux à Berlin pour France Culture. Un nouveau drame au Yémen où 22 enfants ont été tués hier, on l'a appris que ce soir, dans une nouvelle frappe de la coalition menée par l'Arabie Saoudite en lutte contre les rebelles Houthis. La frappe a touché le sud de la ville de Hodeïda. 4 femmes comptent également parmi les victimes, alors qu'hier, toujours un peu plus loin, 4 autres enfants ont été également tués. Annonce faite aujourd'hui par le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires. Le 9 août dernier, déjà dans des circonstances similaires et toujours au Yémen, au moins 40 enfants avaient été tués. Le sénateur américain républicain et ancien candidat à la Maison-Blanche, John McCain, annonce ce soir mettre fin à son traitement médical. À 81 ans, il est atteint d'un cancer au cerveau très agressif et dispose donc désormais d'une espérance de vie très limitée. Donald Trump, régulièrement conspué par John McCain, est une des rares personnalités politiques américaines de premier plan qui n'ait pas encore réagi ce soir à cette annonce. En Indonésie, un A400M, un avion de transport militaire français, a acheminé aujourd'hui 25 tonnes de fret humanitaire sur l'île de Lombok. Il est très touché ces dernières semaines par des tremblements de terre qui ont fait plus de 500 morts. Elle est sinistrée, cette île, ce qui a motivé la modification de la mission de l'appareil. Il était arrivé effectivement à Jakarta lundi avec un tout autre objectif, une autre mission. Franck Cognard.
Sur l'île de Lombok, des dizaines de milliers de bâtiments ont été détruits fin juillet et début août par 2 séismes majeurs et leurs répliques. L'île a donc aujourd'hui besoin de tout. Alors profitant du passage à Jakarta d'un A400M français, le gouvernement indonésien a demandé à ce que l'appareil soit un temps détourné de sa mission initiale. À bord, 25 tonnes de matériel.
Il y avait 2 ambulances, il y avait du matériel de reconstruction, il y avait des vivres pour la population.
Le colonel Duvivier, porte-parole de l'armée de l'air.
Et il y avait des personnels de secours, paramédicaux, un certain nombre de... Oui, on a pu emporter pas mal de choses.
La mission initiale de l'avion, c'était Pégase, un tour aérien accompagné de 3 rafales avec 120 personnels, 40 tonnes de matériel entre Indonésie, Malaisie, Singapour et Inde. C'est ce qu'on appelle de la diplomatie aérienne. Le colonel Brunetta est le chef adjoint de la mission Pégase.
Pégase, c'est une manière de montrer les ailes françaises au travers le monde et dans cette région Indo-Pacifique. C'est un outil qui est principalement... à vocation de développer les partenariats avec les nations avec lesquelles on travaille très régulièrement.
La zone Indo-Pacifique est devenue, avec la montée en puissance militaire chinoise, un espace où la France doit s'affirmer, préconisait il y a un an la revue stratégique de défense. La mission Pégase est notamment là pour ça.
Au Zimbabwe, pas de surprise, la Cour constitutionnelle a confirmé tout à l'heure la victoire du président Emmerson Mnangagwa lors du scrutin du 30 juillet dernier. Elle a rejeté, faute de preuves, les allégations de fraude et de manipulation issues de l'opposition. Grosse perturbation ce soir en gare de Marseille-Saint-Charles. Un TGV en provenance de Paris est sorti des rails tout à l'heure au moment de son arrivée. Il n'y a aucun blessé, mais la circulation est perturbée. Elle a été coupée tout à l'heure. Elle reprend progressivement, d'après la cellule de crise de la SNCF à Marseille. Le trafic restera perturbé demain du côté de Marseille. Un temps frais et nuageux nous attend pour ce samedi de la Bretagne à l'Alsace. Il faudra faire toute la journée avec les nuages et la pluie. Même scénario, quoique plus tardif dans la journée, de l'Auvergne aux Pyrénées. En Provence et jusque sur le golfe du Lion, le temps sera plus ensoleillé, mais les températures vont continuer à descendre. 8 à 14 degrés le matin, 17 à 23 degrés l'après-midi. Une limite pluie-neige dans les Alpes à 2400 mètres quand même. Ce journal a été préparé avec Emmanuel Fossillon. C'était Alexandre Dang à la technique.